Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouveau podcast, nouvelle semaine, normalement la dernière semaine. Je sais que c'est un petit rendez-vous que vous respectez, vous êtes vraiment fidèles là durant le confinement pour écouter les podcasts. Alors c'est pas grand-chose, hein, c'est une petite demi-heure, voire moins, tous les mardis matins à 8h, mais bon. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir de faire les enregistrements, un petit peu plus compliqué pour moi parce que du coup je suis plus tout seul à la maison, donc pour trouver des moments un petit peu de tranquillité pour enregistrer c'est compliqué, mais bon, c'est comme ça et j'y arrive, donc je vais pas me plaindre. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va voir quelques sujets, on va parler des glucides anti-stress, on va parler de la santé des Suisses, les Suisses qui m'écoutent d'ailleurs. Et on va parler d'alimentation intuitive, on va parler aussi de psychologie des sportifs de haut niveau durant le confinement. Donc voilà, voilà un petit peu le thème, les thèmes du podcast du jour. Donc avant de démarrer, vous savez, la petite page de publicité que je fais à tous les épisodes, aujourd'hui c'est pour vous parler de finalement cette formation que j'ai sortie à la demande, parce que j'avais posté en fait un sondage sur le groupe Facebook VIP de plusieurs thèmes de vidéos, plus une rubrique pour suggérer des thèmes de futures formations, de futures vidéos. Et finalement, il y a Alain qui m'a proposé de développer un petit peu l'impact des hormones sur l'alimentation, donc ce qui était une question un petit peu étrange, mais à la fois qui m'a poussé un petit peu, en fait, loin de mes réflexions normales. Pourquoi ? Parce que l'impact des hormones sur l'alimentation, j'aurais plutôt dit l'inverse, moi, l'impact de l'alimentation sur les hormones. Et donc le fait de voir la question dans ce sens-là m'a poussé à faire des recherches un petit peu différentes, à aborder en fait, à développer finalement plutôt ma pensée de façon différente et à faire des recherches également de façon un petit peu différente. Donc c'est disponible sur le site, ça parle. Pour la première vidéo, pour la première formation, on se base sur l'insuline et je vais pas vous rabâcher un petit peu tout ce que vous savez déjà sur l'insuline. Le but était de vous apporter des nouveautés et notamment la résistance à l'insuline au niveau du cerveau et pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. On parle aussi des acides gras et enfin il y a plein de sujets comme ça qu'on traite ensemble et qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Bon. Deuxième petite page de publicité. Alors publicité, là c'est plus publicité divertissement, on va dire. J'ai relancé, ça faisait longtemps que je l'avais activé, mais je j'y allais jamais et en plus de ça, je ne le fournissais jamais. Là, j'ai décidé de faire autre chose, c'est que sur Pinterest, alors un réseau social qui en France est bien développé mais peu connu, en tout cas j'en entends peu parler, sur Pinterest, je partage en fait mes lubies. Donc c'est pareil, je vous mets le lien directement dans les notes de l'émission, là, directement. Alors je crois que le lien est tout en bas de toutes les notes. Mes lubies sur Pinterest et en fait ben voilà j'ai fait plusieurs tableaux où j'ai trouvé des vieilles photos de muscu, il y a aussi mes toutes premières photos, il y a également des idées de cheat meals que j'aime bien, donc du coup je les partage, c'est pas les miens hein, c'est des choses inspirées on va dire, mais voilà c'est, je trouve que c'est bien pour se détendre. Pour voir un petit peu des nouveautés. J'ai même mis les bagnoles de sportifs que j'aime bien, parce que vous savez que j'aime bien la bagnole, donc c'est pour ça, c'est mes lubies. C'est un petit peu plus style de vie, fitness et inspiration. J'ai mis pour hommes, mais bon, c'est pour hommes et femmes, hein. J'ai mis pour hommes parce que c'est en règle générale, c'est des choses qui sont un petit peu plus appréciées par les mecs, on va dire, les bagnoles de sport, etc. Mais bon, ça pourra convenir à tout le monde. C'était juste dans un souci de rédaction de thèmes et de tableaux. Voilà, donc on démarre le podcast directement par le premier sujet. Le premier sujet que j'ai noté et que j'ai mis de côté, c'est Alors, ça s'appelle, c'était un article de la nutrition.fr qui s'appelle Covid-19, ces glucides anti-stress qu'il vaut mieux éviter. Alors, la partie que j'ai notée de l'article, c'est ça. Alors, des aliments apaisants mais risqués en période d'épidémie, mais en période de stress, ce n'est pas facile de s'en passer. La raison est qu'en élevant la glycémie, ces aliments jouent un rôle apaisant sur l'humeur. Ils favorisent le passage d'un acide aminé, le L-tryptophane, dans le cerveau. Celui-ci est le précurseur d'un messager chimique qui console, donc la sérotonine. Le problème, dit Elvire Nérin, c'est que leur consommation régulière nuit à la santé métabolique. Elle favorise la prise de poids et augmente les risques de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Trois conditions qui exposent à un risque élevé de complications en cas de Covid-19. Bon, ils vont peut-être un peu loin, mais ça a été montré hein, qu'il y a des facteurs de risque pour les personnes qui ont des prédispositions ou qui sont déjà atteintes de ces maladies-là. Évidemment, vu qu'une des causes, un des responsables, alors moi je dirais pas les glucides à proprement parler, je dirais plutôt le surpoids et l'inactivité. Donc le surpoids est conduit par quoi ? On va dire l'inactivité physique ou le manque d'activité physique additionné à une alimentation déraisonnable, dérégulée, antiphysiologique, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas des mots, c'est des mots barbares, on va dire, mais en fait, manger mal et ne pas assez bouger, ça prédispose au diabète. À l'inverse, on peut s'en protéger en améliorant un petit peu sa sensibilité à l'insuline, en faisant du sport, en étant moins stressé et en mangeant correctement. Et évidemment, les glucides à haut index glycémique, de toute façon, personne ne les recommande. Enfin, je pense pas qu'aujourd'hui, il y en ait qui vous recommandent encore d'en consommer, même chez les sportifs, à moins que vous soyez sportif d'endurance et des petites collations sucrées durant l'entraînement, pourquoi pas. Mais même ça, moi, je suis plutôt contre, parce que j'ai pas vu de données là-dessus, mais je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais ces idées de glucides pendant l'entraînement... Si on s'entraîne souvent, ça fait quand même souvent du sucre dans la bouche et bon, bah du sucre dans la bouche régulièrement. Est-ce qu'on s'expose pas un petit peu plus au risque de carie? Je sais pas. J'ai pas vu de recherche là-dessus. Peut-être que quelqu'un pourra me dire le contraire et qu'il y a pas de risque. Moi, je suis un peu bête et discipliné à l'ancienne et pour moi, le sucre pour la santé bucco-dentaire, c'est pas top. Donc voilà, c'était une petite review de cet article là. Que je trouve intéressant dans le sens où il approche le problème de manière un petit peu différente pour peut-être aider et sensibiliser les gens aux index glycémiques élevés, puisque là l'avantage c'est que ce qui est intéressant de voir c'est que souvent les bons réflexes alimentaires, pourquoi ils ne sont pas adoptés? Parce que les avantages ou les risques à suivre telle ou telle recommandation sont plutôt du moyen long terme. Donc on va pas avoir d'impact direct. Alors que là, il joue sur un impact direct, qui est la contamination par le virus, et pour proposer quelque chose qui, normalement, on est censé s'en préoccuper pour du long terme. Et voir peut-être que ça va sensibiliser certaines personnes. En tout cas, voilà, je pense que c'est une petite approche qui peut être intéressante et de voir que aussi cette fameuse relation entre IG élevé, passage du tryptophane au niveau du cerveau et donc précurseur de sérotonine, donc on se sent bien, etc. Ça peut être un cercle vicieux et une forme de à terme en fait de création d'une boucle de plaisir par le sucre rapide, anciennement appelé sucre rapide, mais maintenant on appelle plus ça des glucides à IG élevé. Voilà. Bref, on va parler un petit peu pour nos amis les Suisses, alors qu'ils nous écoutent. Salut à tous les Suisses. Alors là, c'est un article de planètesanté.ch qui dit que les Suisses se portent plutôt bien. Si l'on en croit les données de la dernière enquête suisse sur la santé menée par l'OFS en 2017, 85% d'entre eux ont déclaré être en bonne santé, un chiffre qui ne doit pas faire oublier que des fortes disparités sociales existent. L'obésité, par exemple, touche bien plus de personnes qui ne sont pas allées au-delà de l'école obligatoire, donc 21% des personnes testées, que celles qui ont une formation supérieure, donc 8%. Le surpoids reste un enjeu de santé publique dans les pays, puisque 39% des hommes et 23% des femmes présentent un excès de poids. Alors là, il se base sur l'index de masse corporelle, IMC, entre 25 et 30. Les femmes ont une alimentation plus saine que les hommes pour 28%, Alors non, 28% consomment les 5 portions de fruits et légumes recommandées quotidiennement, contre 15% seulement chez les hommes. La consommation de viande a également diminué parmi les femmes suisses, seuls 10% mangent de la viande quotidiennement et 6% n'en mangent jamais. Alors moi, là, dans cet article, je voulais juste noter ce lien qu'il y a entre l'obésité, par exemple, touche bien plus les personnes qui ne sont pas allées au-delà de l'école obligatoire. Donc en gros, je sais pas en Suisse comment c'est, mais en France, l'école obligatoire, c'est quoi? C'est jusqu'au collège de mémoire? Enfin, je me rappelle plus. Ça doit être jusqu'au collège, je crois. Et après, enfin, tous ceux qui vont au-delà, on va dire que on va prendre. Ah non, et formation supérieure, je pense que c'est après le lycée. Enfin bon, bref. Ces gens-là sont plus touchés, ceux qui vont pas au-delà de ces études-là, que les personnes qui font des formations supérieures. Alors, j'avais partagé de mémoire un reportage sur Arte, qui n'est pas ce reportage complètement étrange qui est sorti sur la muscu récemment sur Arte. Je pourrais en faire un commentaire d'ailleurs, mais c'est un reportage qui est sorti sur l'obésité et qui montrait clairement que dans les endroits où il y avait le moins d'argent, on va dire les choses comme elles sont, eh ben il y avait de plus en plus de surpoids. Et ben il faut peut-être voir ça, l'attaquer sous un autre problème, c'est que je pense que ces personnes-là ont une responsabilité individuelle supérieure, c'est-à-dire que quand on n'a pas des parents qui ont une éducation au niveau de l'alimentation ou du sport, etc., on a une plus forte responsabilité personnelle vis-à-vis de sa propre santé. Donc du coup, faut plus se prendre en main, faut plus chercher, faut plus être curieux, malheureusement, parce qu'on a moins de chances que les bonnes notions nous soient données par notre cercle social ou par nos parents et autres, etc. Donc moi, c'est ce genre de choses qui m'intéresse. Parce que, vous savez, je suis pas du style à dire il faut aider les autres absolument, absolument. Je pense qu'on a une part pour aider les autres. Je pense que mon travail représente bien ça. Enfin, en tout cas, moi, je pense faire mon travail de ce côté-là. Mais il y a après une part de responsabilité individuelle où on ne doit pas se laisser aller dans le torrent des mauvaises habitudes, etc. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de nager un peu à contre-courant, parce que la facilité étant de se laisser aller dans le courant de toute façon, c'est pas de ma faute, je fais partie d'une catégorie de personnes qui est sujet à du surpoids, qui voilà, j'habite pas dans un bon endroit, je n'ai pas accès à telle ou telle chose, et donc ça, c'est se laisser aller dans un torrent, en fait, de, je vais pas dire d'excuses parce que ça va être mal perçu, mais on va dire de préjugés qui ne vont pas induire des bonnes croyances, et donc du coup qui vont verrouiller un peu les personnes sur faute à « c'est pas de la mienne, c'est de la faute de mon environnement ». Et je pense que ces personnes-là ont une responsabilité personnelle supérieure si elles veulent s'en sortir, et donc du coup doivent faire preuve de plus de courage, plus de recherche. Et je pense pas que cette histoire d'école obligatoire les indispose par rapport à la recherche. Au contraire, parfois, quand vous n'avez pas eu et reçu une éducation forte, vous êtes beaucoup plus libre au niveau de vos process, c'est-à-dire de réflexion. Et donc, du coup, vous n'êtes pas cantonné, vous n'êtes pas verrouillé à des manières de penser, etc. Observez. Je me suis, moi, toujours demandé à quel moment une personne devient hyper rigide au niveau de sa façon de penser. Et j'ai pu me rendre compte que j'ai eu par le passé des connaissances qui avaient suivi un chemin universitaire, un chemin, d'apprentissage différent du mien, c'est-à-dire qu'ils avaient fait beaucoup d'études supérieures. Et ces personnes-là ont diamétralement changé entre le moment où ils ont démarré ces études-là, au niveau de leur croyance, de leur ouverture d'esprit, et le moment où ils ont terminé. C'est-à-dire que au moment où ils ont commencé, ils étaient plutôt open, c'est-à-dire que, je vais pas dire que tout les intéressait, mais ils étaient pas rigides dans leurs affirmations. Il y avait une forme de, comment dire, on pouvait discuter, même des sujets qu'ils maîtrisaient, entre guillemets, on pouvait quand même discuter. À partir du moment où les études ont été terminées, il y avait une forme de rigidité, comme si le diplôme et l'enseignement avaient verrouillé une façon de penser et que la personne ne voulait plus, par confort ou par, je sais pas, par hypnose, j'en sais rien, regarder ailleurs. Et je pense qu'il y a cette chose qui se passe aussi dans les études de médecine. Donc, si je peux envoyer un petit message aux gens qui suivent des études de médecine, faites attention à ces formes de rigidité qui, on le voit par la suite, sont relativement difficiles à réouvrir, en fait, à réouvrir un petit peu ces façons de penser. Et c'est pour ça qu'on voit assez peu de professionnels de santé faire des conférences, etc., basées sur leur recherche post-cursus, on va dire, universitaire ou médical ou autre. Enfin, pas cursus médical, mais cursus d'apprentissage. Comment dire ? Ces personnes-là, en fait, sont rares dans le sens où, après leurs études, elles continuent à faire des recherches. Elles continuent à apprendre. Et je pense que c'est pas de la faute des étudiants, des médecins, des professionnels de santé et tout. C'est que le circuit veut ça. C'est-à-dire que c'est intense, très intense pendant 5, 7, 8, 9, 10, 15 ans. Enfin, selon les spécialités. C'est très intense. Et qu'après, diplôme étant accroché au mur, il y a une forme de c'est bon, je peux me reposer sur mes lauriers. Et à l'inverse de la personne qui démarre sans ça, c'est-à-dire que la personne qui n'accroche jamais un diplôme à son mur sera toujours en quête finalement de l'accrocher. Et là, c'est un peu de la psycho que je fais, mais sera toujours dans cette quête d'accrocher un diplôme qui n'arrivera jamais si elle suit jamais d'école qui va lui amener un bout de papier à encadrer. Mais en tout cas, ça va là toujours dans ce, ça a un nom, ce je vais pas dire que c'est un syndrome, mais cette façon psychologique de voir les choses, c'est plus ou moins le syndrome de l'imposteur en fait, qui voudra toujours en faire un petit peu plus pour se faire valider. Et je pense que on retrouve plus ou moins ça à toute petite échelle chez les personnes qui sont voilà issues des gens qui n'ont pas été très loin après l'école obligatoire. Et donc leur responsabilité personnelle et leur courage leur permettra d'en sortir, ou en tout cas de ne pas subir les méfaits du mauvais style de vie, de l'alimentation, du manque d'activité physique, etc. Et donc du coup changer un petit peu les cartes, c'est-à-dire que quand ces personnes-là vont pouvoir à leur tour éduquer d'autres personnes, leurs enfants par exemple, eh ben ils vont pouvoir fausser un petit peu ces données et augmenter la part de personnes en bonne santé, même chez les personnes, on va dire, qui ont des moyens un peu plus limités et qui ont un niveau scolaire, je parlerai jamais d'intelligence parce que pour moi c'est pas du tout le cas, qui ont un niveau scolaire plus bas que d'autres personnes. Voilà. Donc on passe à un autre sujet, alors voilà, alors je sais pas si, non, je vais d'abord traiter celui-là qui est, je vais plus l'argumenter et ensuite on passera sur un sujet plus léger. Donc là c'est un article de Femme Actuelle, vous voyez que j'ai des sources un petit peu à droite à gauche, et vous allez voir que cette source-là je m'en sers pas comme référence scientifique mais pour toute une autre raison. Ça s'appelle l'alimentation intuitive ou instinctive, je sais pas, mais là il y a marqué intuitive, la nouvelle façon de mincir sans régime. Faites bien attention au titre. La nouvelle façon de mincir sans régime. Donc j'ai noté deux trois choses dans l'article et puis on va argumenter. Alors se conditionner progressivement en cheminant par étapes. Éloignez-vous de la mentalité régime. Au lieu de mesurer les progrès en termes de perte de poids ou de calories brûlées, ou même d'apparence, abandonnez l'idée selon laquelle vous avez un problème avec la nourriture et essayez de détecter les signaux innés de la faim et de la satiété. Bref, on arrête de suivre des règles inhumaines pour se nourrir. Laissez tomber l'idée de perdre du poids, ne vous infligez pas d'objectif à atteindre, l'alimentation intuitive n'est pas une méthode pour maigrir, insiste Laura Thomas. Alors Laura Thomas a écrit un bouquin là-dessus, et vous voyez bien que l'alimentation intuitive n'est pas une méthode pour maigrir, insiste Laura Thomas. L'article en lui-même, le fond de l'article, contredit son titre. N'est pas une méthode pour maigrir, alors que le titre c'est alimentation intuitive, la nouvelle façon de mincir sans régime. Donc on voit bien l'idée putaclic derrière. Enfin bon bref, après c'est du référencement, hein. C'est la même guerre pour tout le monde, il faut bien se placer sur les réseaux, les Google, les machins, je comprends. Mais bon, vous voyez bien que l'article dans son titre et dans son corps ne parle pas de la même chose réellement. Donc Laura Thomas, j'espère que tes propos ne seront pas déformés. En tout cas, moi j'ai copié-collé ce que j'ai trouvé sur l'article, donc si c'est le cas, rapproche-toi du magazine parce qu'ils auraient mal traduit le fond de ta pensée. Alors, il faut arrêter de se focaliser sur le côté diététique. Au départ, contentez-vous d'y réfléchir et laissez l'idée faire son chemin. En fait, la perte de poids est un effet secondaire et se fera naturellement après le déconditionnement, à partir du moment où on ne fera plus de fixette sur son assiette et la peur de grossir. N'excluez pas d'aliments, sauf pour des raisons religieuses ou éthiques ou à cause d'allergies. Précise l'experte, sinon c'est la porte ouverte aux frustrations et au craquage. D'où le phénomène yo-yo et la spirale des régimes. Soyez indulgente avec vous-même, ou indulgent, parce qu'il y a des mecs aussi qui ont des problèmes avec ça. Laura Thomas emploie même le terme d'autocompassion et rappelle que le processus qui mène à la liberté de manger est difficile car il faut se défaire de nombreuses années de conditionnement. Allez-y progressivement, rassure-t-elle, cela vous aidera à cultiver la curiosité plutôt que le perfectionnisme. Apprenez la patience, dans l'alimentation intuitive, il n'y a pas d'erreur, de bêtises ou d'échecs, seulement des moments d'apprentissage, affirme l'experte. Les personnes qui me consultent me disent toujours qu'elles ont raté leur régime ou qu'elles ont échoué. Au lieu de vous réprimander, demandez-vous quelles leçons vous pouvez en tirer de cette expérience. Alors, Laura a plein de bonnes intentions avec son régime et je suis d'accord à 100% avec plein de ses affirmations. Moi, je mets juste un petit bémol sur la période de transition. Je trouve que l'alimentation intuitive est très bonne à partir du moment où on est bien câblé. Qu'est-ce que veut dire bien câblé ? C'est avoir construit une certaine réflexion autour de l'alimentation, autour de l'activité physique et autour de la psychologie. Pour moi, ce sont les trois axes, en fait. Psychologie, réussir à comprendre un petit peu comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres. Nutrition, comment le corps fonctionne et comment le corps peut dysfonctionner. Et comment ça s'appelle ? Activité physique ou sport ou autre. Et comprendre son rôle, pourquoi l'activité physique a un rôle dans le quotidien, et pas seulement au niveau du sport, mais au niveau de la mouvance du corps, on va dire. Si on maîtrise ces trois axes-là, on peut prétendre à une alimentation intuitive. Pourquoi ? Alors tout ce que je dis là à partir de maintenant, ce n'est plus de la citation, c'est moi qui parle. Donc l'alimentation intuitive, à mon sens, une fois qu'on a compris ces trois axes, psychologie, dépenses physiques ou activité physique et nutrition, on est capable de se dire « Ok, intuitivement, j'ai envie de me faire plaisir avec un bon repas, on va dire calorique, qui me fait envie, donc quel qu'il soit, c'est-à-dire un cheat meal, on va dire. » Intuitivement, on peut faire ça parce que derrière, on a le bagage pour pouvoir le comprendre, le contrecarrer par la suite et savoir aussi ne pas culpabiliser, c'est-à-dire si on a compris les trois axes, on est censé avoir une alimentation cohérente. C'est-à-dire que on va manger plus sainement, on va dépenser des calories en bougeant, et psychologiquement, on va être apte à réussir à prendre du recul face au stress, etc. Donc on va avoir un style de vie qui, malgré les difficultés de chacun, on va faire au mieux pour qu'il soit agréable, au mieux. Ça ne veut pas dire que je parle pas de bien-être, de bonheur, tout ça, ça c'est autre chose. Mais on va faire au mieux avec nos outils pour que ce soit agréable. À partir de là, l'alimentation intuitive peut devenir intéressante, on peut se faire plaisir et on peut se laisser attirer par tel ou tel aliment parce que logiquement, le reste du temps, on est conscient des bonnes pratiques et donc du coup, on s'alimente correctement. Je pense pas que ce soit possible, malheureusement, ça c'est mon point de vue personnel, je ne pense pas que ce soit possible dans l'autre sens, c'est-à-dire d'avoir une alimentation intuitive quand on n'a pas les bagages nécessaires. Parce que pour beaucoup de personnes, si je dis à une personne qui n'est pas du tout éclairée au niveau alimentaire, je lui dis bah, « maintenant tu vas manger exactement comme ton cerveau te propose de le faire ». Donc la personne va avoir envie de sucrer, elle aura peu de chances de se tourner vers un fruit. Elle va avoir plus de chances de se tourner vers le sucre qui l'a conduit au surpoids par le passé, le sucre, les graisses, l'excès calorique, etc. Tout ce qui l'a conduit en surpoids, tout ce qu'elle a aimé, puisqu'il faut pas oublier que si elle est en surpoids, elle a consommé certainement des aliments qu'elle aimait et qui lui étaient nocifs par manque de connaissances. Donc c'est pas, elle est pas responsable de ça. Elle est responsable, mais indirectement. Et donc du coup, elle va être attirée intuitivement, instinctivement par des aliments qu'elle aime, donc potentiellement qui l'ont conduit au surpoids. Donc je pense qu'il y a d'abord un travail éducatif à faire et de compréhension. Donc éducatif ne veut pas dire obligatoirement à l'école ou autre. Hein, je parle bien de recherche personnelle pour comprendre un petit peu comment tout fonctionne. Et ensuite, instinctivement, la personne, quand elle aura fait un petit peu, hein, une, moi je suis convaincu qu'il y a d'abord une phase de pas de privation, mais de minimaliste diététique. Qu'est-ce que j'entends par le minimalisme diététique? Je sais même pas si ça existe ce terme-là, mais en tout cas, si ça n'existe pas, je vais le hashtaguer, le copyrighter. Mais en tout cas, le minimalisme diététique, c'est d'avoir dans son frigo, dans ses placards, uniquement des choses qui sont bonnes pour nous. C'est-à-dire des produits bruts, des produits au maximum. Donc brut veut dire non transformé, le moins possible retouché par l'homme. Des produits variés, ça veut dire que on va avoir beaucoup de végétaux, on va avoir des protéines maigres et grasses avec une proportion un petit peu plus élevée pour les protéines maigres. Dans ces protéines maigres, on va avoir des poissons, des fruits de mer, des œufs, des viandes. Ensuite, on va avoir les légumineuses, on va avoir certaines céréales ou apparentées comme le riz basmati, comme le quinoa pour certains, pour ceux qui le tolèrent, comme le sarrasin, etc. On va avoir comme ça des aliments bruts. Tous ces aliments que ne consomment pas les gens en temps normal, on va d'abord les habituer à cette forme d'alimentation-là. Cette forme d'alimentation-là va induire une baisse de l'appétence, on va dire, entre guillemets, pour le sucre et les produits ultra transformés sur le moyen terme. Je vais pas dire sur le très court terme, je vais dire sur le moyen terme. Au bout de 15 jours, 3 semaines déjà, la personne va être toujours attirée par le goût sucré, le goût salé, le goût gras, mais les sources vers lesquelles elle va se tourner, enfin, le plaisir ressenti envers certaines sources qu'elle aurait délaissées avant, par exemple elle a envie de sucre, avant elle ne se serait pas tournée vers un fruit, maintenant elle va pouvoir se tourner vers un fruit parce que justement cette diète saine durant 3 semaines ou 1 mois a créé une forme d'appétence pour les fruits, pour certains fruits, en tout cas même si elle en mangeait durant la diète plus, si elle veut en manger un petit peu plus pendant une période, eh ben ça sera toujours mieux que de consommer par exemple, je sais pas, des barres de chocolat, des gâteaux et tout ça. Et donc c'est là où je pense que l'alimentation instinctive peut prendre du sens. Après, cette alimentation instinctive pour perdre du poids, j'ai du mal à y croire dans le sens où quand on fait un régime de perte de poids, c'est assez peu probable qu'on ne passe pas par une période de faim. En tout cas, pour moi et pour pas mal de personnes autour de moi, ils ont réussi à perdre du poids à partir du moment où ils avaient un petit peu faim, voire beaucoup faim, à 1 ou 2 ou 3 moments dans la journée. Et vouloir combattre ça absolument, enfin en tout cas vouloir écouter ses instincts, nos instincts nous ont permis de survivre et la faim était un instinct qui nous conditionnait à aller chasser, cueillir, trouver à manger ou voler même, piller pour trouver de la nourriture. Et si on suit nos instincts, à chaque moment où on va avoir faim, on va manger. Donc du coup, ça n'induit pas réellement une perte de poids. Alors pour les personnes qui sont fortement en surpoids, peut-être. Quand je dis fortement en surpoids, c'est que ce sont des personnes chez qui le fait de restructurer un petit peu l'alimentation avec des aliments sains va leur faire perdre du poids. Mais par contre, pour une personne fitness qui veut aller combattre un petit peu du gras récalcitrant, faut pas oublier une chose, c'est que toutes les attentes que l'on a aujourd'hui par rapport à un corps sain, athlétique et tout ce qu'on veut, ça n'est pas du tout un corps, comment dire, prêt pour la survie et comment dire, sain. En fait, nous, ce qu'on attend de notre corps, ça va au-delà du niveau de c'est bon, c'est sain pour le corps. C'est-à-dire que le tour de taille que l'on recherche est bien en dessous du tour de taille santé recommandé. C'est-à-dire que nous, on veut aller au-delà. Donc, je pense que ces régimes-là, instinctifs, intuitifs, etc., si on respecte l'ordre que j'ai respecté, ce que j'ai proposé, pardon, il va conduire certainement à un état de santé cohérent. Mais par contre, par rapport aux attentes que vous avez, qui est d'avoir un tour de taille, un niveau de sèche, etc., là, on dépasse ce cadre-là. C'est-à-dire qu'on doit aller plus loin. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes n'y trouvent pas leur compte, parce qu'ils ont des attentes vis-à-vis d'une forme d'alimentation qui ne sont pas à la hauteur de la forme d'alimentation, enfin voilà, de ce qu'ils sont en train de suivre. Si vous voulez être sec, déchiré, avec des abdos apparents, et que ça n'est pas votre nature à la base, vous ne pourrez certainement pas faire des régimes faciles. Il va falloir faire des régimes, je vais pas dire compliqués, mais compliqués dans leur organisation, non, mais compliqué à suivre, oui. Pourquoi compliqué à suivre? Parce que vous allez avoir faim, parce que vous allez être plus fatigué, parce que voilà, ça va être compliqué tout simplement hein, à suivre au niveau psychologique et instinctif justement. Vous allez devoir aller contre vos instincts. Donc c'est pour ça que pourquoi j'ai voulu mettre cet article dans le podcast, parce que aujourd'hui, avec toutes les notions qui nous arrive à droite et à gauche, tous les régimes, toutes les données qu'on a, on a tendance à vouloir suivre tout ce qui est bon, tout ce qui est recommandé, mais d'avoir toujours le même but, c'est-à-dire être plus musclé et plus sec. Donc du coup, on va nous parler de jeûne intermittent, on va nous parler de OMAD, là, One Meal a Day, on va nous parler d'alimentation intuitive ou instinctive, on va nous parler de jus de légumes, on va nous parler de plein de choses comme ça qui vont dans le sens, qui ont toujours des... En fait, ce sont toujours des choses certainement qui étaient très... exclusive, c'est-à-dire qu'il y a les traités thérapeutiques pour un domaine. Je repense à la diète cétogène, par exemple, la diète cétogène qui était initialement, enfin, je ne sais pas si c'était la première pathologie qu'elle traitait, mais on l'a beaucoup utilisée contre l'épilepsie. Et aujourd'hui, la diète cétogène elle propose de traiter tellement de choses avec des preuves et parfois des contradictions qui font croire aux gens que c'est une forme de diète qui peut tout sauver. Ça n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je déconseille aux gens de suivre une diète cétogène si c'est pas nécessaire au niveau thérapeutique ou autre. La diète cétogène, pour moi, peut être utilisée pour perdre du poids et a été utilisée bien avant que j'en parle par des bodybuilders à l'ancienne pour être sec. Mais ça n'est pas une diète de toute une vie. Enfin, en tout cas, si on n'y trouve pas des avantages réels au niveau santé, au niveau physique, au niveau énergie et tout, non, c'est pas forcément fait pour vous. Par contre, pour perdre du poids, je ne connais personne qui n'y a pas trouvé des intérêts. Après, il y a toujours des gens qui n'ont pas de difficulté à perdre trop de poids ou qui ont une bonne capacité à oxyder les glucides, etc. Mais en règle générale, ces personnes-là, elles cherchent pas des diètes de sèche extrême. En général, ce sont des personnes qui ont réussi à perdre du poids facilement en coupant un peu les calories. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui, sans trop faire attention, gardent un tour de taille assez cohérent par rapport à leur niveau de forme, etc. Donc, c'est toujours pareil. Et il y aura toujours des contradictions par rapport à ça. Et c'est pour ça que vous voyez autant de méthodes pour perdre du poids. Il faut toujours partir du principe que la personne qui vous parle, la personne qui vous recommande, travaille certainement dans un domaine qui l'a amené à faire telle ou telle recherche. Quand je dis travail, par exemple moi, par rapport aux glucides, par rapport à la diète cétogène, par rapport aux index glycémiques, à la charge glycémique, à toutes ces choses-là. Pourquoi je vous en parle beaucoup? Parce que c'est la façon que j'ai utilisée pour perdre du poids, qui a fonctionné pour moi. Et croyez-moi qu'avant, j'ai testé bon nombre de méthodes avec des glucides, avec moins de glucides, avec beaucoup de glucides et peu de graisse. J'ai testé plein de choses. Et moi, j'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi. Et peut-être ce qui fonctionne pour moi ne fonctionne pas du tout pour mon voisin. Mais c'est pas un problème. Moi, je veux parler aux gens que ça concerne. Je cherche pas à avoir la nouvelle révolution mondiale, etc. en termes de perte de poids. Mon but, c'est de parler aux gens qui se reconnaissent dans mes mots. C'est-à-dire des gens qui ont été en surpoids par le passé ou qui sont actuellement en surpoids, qui ont testé beaucoup de régimes, qui ont fait pas mal d'effets yo-yo, qui font du sport, qui se sont musclés, mais qui n'arrivent pas à perdre leur gras. Moi, c'est à ces individus-là que je parle. C'est pas aux gens qui ont du mal à prendre de la masse musculaire et à prendre un kilo sur la balance. Ces personnes-là, ça ne me parle pas et je ne leur parlerai pas. Enfin, en tout cas, mon discours ne va pas leur parler, ça ne va pas les intéresser. Donc bref, je m'arrête sur ce sujet-là. L'alimentation intuitive, voilà ce que j'en pense. C'est pas oui ou non, c'est oui sous certaines conditions et avec ces connaissances qui sont psychologie, nutrition et... activité physique ou la capacité de bouger au quotidien. On termine sur une note un petit peu plus simple, un petit peu plus légère. Psychologie des sportifs, comment rester compétiteur pendant le confinement. Donc c'était une petite note de Sport France Info. Je cite alors, comment aider les athlètes qui perdent de leur esprit guerrier pour qu'ils se retrouvent leur niaque. Nathalie Crépin insiste sur le travail des objectifs. Elle cite, à court terme, il faut axer sur la capacité de dépassement de soi et bien comprendre quel aspect mental je vais travailler précisément. À moyen terme, il s'agit de réfléchir à la manière dont je vais mettre en place les objectifs fixés. Quels seront les obstacles et les incertitudes? En posant ces jalons, Les sportifs peuvent ainsi se projeter et retrouver cette combativité. Retrouver une combativité et pourquoi pas ressortir plus fort de son confinement, se questionner sur le sens de notre sport, comprendre pourquoi on le fait, il s'agit d'un désir de reconnaissance, une envie de médaille ou simplement pour nous-mêmes, pose l'IA Auslander, je pense, permettra aux athlètes d'en ressortir grandi. Alors, j'ai lu ce week-end un article sur la psychologie spartiate, avec des références historiques, etc. Et je voudrais faire un petit parallèle avec cet article où il parlait de retrouver une combativité et pourquoi pas ressortir plus fort de ce confinement. Et il disait se questionner sur le sens de notre sport, comprendre pourquoi on le fait, etc., etc. Et ben dans pourquoi je fais le lien avec la psychologie grecque et de la mythologie Sparte, etc. Parce que il parle d'esprit guerrier ici, et ça fait un parallèle avec avec ce que j'ai lu ce week-end. Vous savez, on a tendance à dire que les Spartiates étaient très courageux, etc. Ce qui est certainement vrai. Mais en fait, c'était aussi que c'était le travail de toute une vie que de faire la guerre et de se préparer au combat. C'est-à-dire que leur courage n'était pas inné, mais leur courage était travaillé. C'est-à-dire que c'était le fait d'aller au combat, d'avoir des rites d'initiation, de la douleur au quotidien, de l'entraînement au quotidien, qui leur permettait d'avoir ce courage. Mais en fait, c'était un courage nourri, certes de courage travaillé, mais également de courage automatisé. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus confiant dans une tâche du quotidien quand vous la répétez. C'est-à-dire qu'une personne qui se sent découragée face à une séance d'entraînement l'est beaucoup plus qu'une personne qui pratique au quotidien des entraînements très durs. Pourquoi ? Parce que cette personne-là est habituée, elle sait qu'à telle heure elle s'entraîne, elle sait ce qui l'attend, elle sait comment elle va en ressortir, elle sait comment elle va dormir, elle sait comment elle va avoir faim, elle sait tout par rapport à ça. Elle le maîtrise tellement dans les moindres recoins que c'est plus une question de courage de s'entraîner. Elle a tous les bagages, elle maîtrise l'intégralité des états émotionnels qu'elle va avoir, des états physiologiques qu'elle va ressentir, de sa qualité de sommeil et tout ça. Et en fait, par rapport aux Spartiates, ce que je voulais dire, c'est que avant les combats, les chefs de rang, si je peux dire ça comme ça, faisaient en sorte de maintenir occupés les soldats, parce qu'il avait détecté que si on les laissait un petit peu trop penser, eh ben ça faisait naître de l'anxiété. Donc il fallait les occuper. Certains se coiffaient, se coupaient les cheveux, d'autres faisaient des séances d'entraînement, même la veille des guerres, des gros combats. Le but était de les maintenir occupés en permanence pour pas qu'ils aient le temps d'avoir une forme d'anxiété qui naisse. Et donc là, je trouve que ça fait pas réellement écho avec cet article, dans le sens où on parle de se questionner sur le sens de notre sport, comprendre pourquoi on le fait, s'il s'agit d'un désir de reconnaissance, une envie de médaille ou simplement pour nous-mêmes. Et là, je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir beaucoup de réflexion dans un moment comme ça, parce que pour moi, le sport reste une façon de jouer, donc de s'amuser. Deux, une façon de se percevoir un petit peu, et là, attention à ce que je vais dire, parce que ça pourrait être mal perçu, on est tous égaux, etc. Moi, je pense que d'être musclé, en bonne forme physique, plus fort, etc., permet à l'être humain, quel qu'il soit, de se sentir légèrement supérieur à son voisin, et ce côté légèrement supérieur à son voisin lui permet d'avoir une petite sécrétion de sérotonine qui lui fait se sentir bien, mieux, avec une meilleure estime de soi. C'est mon point de vue personnel, c'est un petit peu développé dans certains ouvrages, mais ce côté sportif, combatif, où on essaye toujours d'être un peu meilleur, un peu mieux, nous permet de nous sentir plus confiants. Et d'aller au-delà de ça, de chercher à trop travailler là-dessus, pourrait conduire à abandonner finalement, à se rendre compte que c'est futile et que pourquoi faire ça et rentrer dans des débats complexes, psychologiques, etc. et pour certains, les faire abandonner. Moi, je pense que il faut pas combattre ce genre de choses. travailler un petit peu l'ego, etc. Pour moi, c'est pas forcément des mauvaises choses de chercher à être meilleur que soi-même et meilleur que son voisin. Pourquoi pas, dans la limite du raisonnable et dans la limite où on cherche pas, enfin que ça devienne pas pathologique et nocif. Toujours pareil, ce sont les extrêmes qui sont négatifs à mon sens, mais se pousser légèrement vers le haut à l'aide de ses collègues ou d'une petite compétition, par exemple sur les réseaux sociaux pour un challenge de pompe ou autre. Moi, je trouve ça plutôt productif. Enfin, en tout cas, ce sont des choses que j'aime bien me mesurer, savoir où j'en suis en fait par rapport aux autres, et trop se poser de questions. Et moi, ça me renvoie à ce que j'ai lu par rapport aux Spartiates, qui eux faisaient en sorte, en tout cas, on faisait en sorte de les occuper pour qu'ils n'aient pas à trop se poser de questions et à devenir anxieux. Donc voilà, c'était la dernière partie et la dernière petite réflexion psychologique par rapport à l'article que j'ai lu. Je vous rappelle encore une fois que tout ce dont j'ai parlé au début du podcast, alors la formation sur l'insuline, les impacts sur le cerveau, etc., la résistance à l'insuline au niveau cérébral et tout, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez voir mes lubies sur Pinterest, les cheat meals, les machins, c'est pareil, vous avez le lien directement en description. Et je vous ai fait un package de tout un tas de choses à voir pendant le confinement qui est bientôt terminé, enfin en tout cas pour une majorité d'entre nous. Allez voir, il y a pour le télétravail, pour ceux qui vont rester en télétravail, ça va les concerner d'ailleurs, il y a des exercices à la maison, enfin voilà, et si vous voulez rester en forme, allez voir, il y a tout un tas de liens, ça va vous permettre de vraiment, vraiment faire la différence, et notamment cette fameuse formation où j'ai eu énormément de retours positifs, je crois que je suis à une trentaine de commentaires là, de retours sur la formation qui dure 3 heures, qui est 100% en audio, qui est sur la perte de graisse, 3 dimensions, nutrition, entraînement, style de vie, psychologie. Notamment la troisième a vraiment vraiment apporté pas mal de concepts et je suis assez fier de ça. C'est pareil, c'est en description, vous avez le lien et ça va vous permettre de vous mettre un petit peu en forme accélérée parce que sortie du confinement, c'est les beaux jours et il y en a beaucoup qui ont accumulé. Donc si vous voulez un petit peu vous nettoyer, vous purger des excès du confinement, allez voir ça, le lien est en description. Je vous laisse ici, à très bientôt, bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.